Aujourd'hui, nous recevons Irène Frachon. Médecin pneumologue, elle est connue pour avoir révélé l'un des plus grands scandales sanitaires en France, celui du Mediator. En 2007, alors qu'elle exerce au CHU de Brest, elle établit un lien entre ce médicament, prescrit pendant plus de 30 ans, et des atteintes cardiaques et pulmonaires graves. Malgré les résistances, elle mène une enquête scientifique rigoureuse, alerte les autorités, puis rend l'affaire publique. Son combat conduit au retrait du Mediator en 2009 et à une prise de conscience majeure sur la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques et des institutions de contrôle. Irène Frachon est aujourd'hui avec nous pour revenir sur cette enquête, sur ce qu'elle a révélé et sur ce qu'elle dit plus largement de notre système de santé.
Bonjour.
Avant même le Mediator, vous avez été confronté très tôt dans votre carrière à un autre médicament des laboratoires de Servier. C'est un point important parce qu'il éclaire tout le reste. Que se passe-t-il à ce moment-là?
Pendant mon internat, en 1990, je travaillais à l'hôpital Antoine Béclair. À cette époque, les équipes voyaient arriver des patients atteints d'hypertension artérielle pulmonaire, une maladie qui est rare, gravissime et même souvent mortelle. Très vite, un lien apparaissait clairement avec un coupe-faim commercialisé par les laboratoires Servier, l'isoméride. Mes chefs étaient furieux, littéralement hors d'eux, parce que le signal était évident, documenté. Et pourtant, le médicament continuait d'être prescrit. Donc moi, jeune médecin, j'ai découvert là quelque chose qui m'a profondément choqué. Un produit qui était dangereux, connu comme tel, mais maintenu sur le marché malgré les morts qu'il provoquait.
Autrement dit, bien avant le Mediator, vous aviez déjà vu de l'intérieur comment un signal sanitaire pouvait être ignoré. Avançons jusqu'en 2007. Vous travaillez alors au CHU de Brest. Un patient vous est adressé depuis l'hôpital de Saint-Brieuc. Qu'est-ce qui attire votre attention ?
Ce patient présentait exactement le même type de pathologie que ceux que j'avais vus des années plus tôt. Une atteinte pulmonaire très sévère avec une hypertension artérielle pulmonaire. Et en regardant son traitement, je vois qu'il prend du Mediator. Et là, immédiatement, quelque chose cloche. Je suis lectrice régulière de la revue Prescrire et je sais que le Mediator n'est pas un banal antidiabétique, comme on le présente, mais un médicament très proche chimiquement des anciens coupe-faim retirés du marché, comme l'isoméride. Je me dis, c'est pas possible, on recommence encore la même histoire.
Très bien. Vous reconnaissez un tableau clinique que vous aviez déjà vu. Et concrètement, qu'est-ce qui vous met sur la piste du lien entre isoméride et Mediator ?
Eh bien, c'est la molécule. Quand on regarde la structure chimique du Mediator, on comprend très vite qu'il est métabolisé dans l'organisme en une substance active quasiment identique à celle de l'isoméride. Autrement dit, ce que j'avais sous les yeux, c'était pas une hypothèse abstraite, mais une continuité pharmacologique. Si l'isoméride provoquait des atteintes cardiaques et pulmonaires, il n'y avait aucune raison scientifique pour que le Mediator n'en provoque pas également. À partir de là, la question n'était plus « est-ce que c'est dangereux ?» mais « depuis combien de temps le sait-on »
À ce moment-là, vous ne vous contentez pas d'alerter, vous enquêtez. Comment s'y prend un médecin pour mener ce type d'investigation ?
Eh bien, en réalité, je fais ce que je sais faire. Je me documente. Je récupère des dossiers médicaux. J'analyse les antécédents. Je compare les cas. Je regarde les données de pharmacovigilance. Je fouille les publications scientifiques, y compris celles qui sont les plus anciennes. C'est un travail très long et très méthodique. Je voulais être absolument certaine de ce que j'avançais. Parce que je savais que si je me trompais, ce serait fini. On discréditerait tout.
Vous construisiez donc un dossier scientifique solide, pièce par pièce, et au fil de cette enquête, vous arrivez à une conclusion extrêmement grave concernant les laboratoires Servier.
Oui. Ce que je découvre, c'est que Servier ne pouvait pas ignorer la toxicité du Mediator. Le médicament était commercialisé depuis 1976. Les signaux existaient, et les alertes aussi. Il y a eu des retraits de médicaments très proches, des études internes, des remontées d'effets indésirables. Et pourtant, le Mediator est resté sur le marché, prescrit à des millions de personnes, souvent hors de toute indication sérieuse. À ce moment-là, j'ai compris que je n'étais pas face à une erreur, mais face à une dissimulation.
Vous comprenez que ce n'est plus seulement un problème médical, mais un problème de responsabilité majeure. Quand on arrive à ce niveau de certitude, comment vit-on avec ça ?
Très mal, parce que vous savez que des gens sont morts et d'autres vont mourir, et que ce n'est pas un accident. C'est vraiment insupportable. Je ne suis pas quelqu'un d'excessivement empathique au sens émotionnel, mais là, il y avait une colère profonde. J'avais le sentiment d'exhumer des morts, dossier après dossier. Et je savais que si je m'arrêtais, personne ne reprendrait le travail derrière moi.
Une fois cette enquête menée, vous utilisez d'abord des canaux institutionnels. Que se passe-t-il concrètement ?
Je fais ce que tout médecin est censé faire. Je déclare les cas aux autorités de pharmacovigilance. Je rédige des signalements précis, argumentés et documentés. Je suis vraiment dans la donnée médicale et pas dans l'émotion. Mais les réponses sont assez lentes et évasives. On me demande des compléments, puis encore des compléments. Et pendant ce temps-là, le médiateur continue d'être prescrit. Je comprends alors que le système est conçu pour temporiser, mais pas vraiment pour protéger rapidement.
Vous respectez la procédure, mais la procédure ralentit l'action. En 2009, le médiateur est enfin retiré du marché. Comment accueillez-vous cette décision ?
Avec un immense soulagement, bien sûr, mais aussi avec une grande amertume. Car le retrait est discret, presque technique. Il n'y a pas de message clair adressé aux patients, pas d'explication publique sur la gravité des risques encourus. On retire le produit, mais on ne dit pas pourquoi. Et pour moi, c'est inacceptable, parce que les victimes avaient droit à la vérité.
Et c'est donc à ce moment-là que vous décidez d'écrire un livre ?
Oui, j'ai compris que si je laissais le récit aux seuls acteurs institutionnels, l'histoire serait peut-être trop édulcorée. J'ai donc écrit « Mediator 150 mg, combien de morts ?» publié en 2010. Je voulais poser une question simple, frontale, et surtout que personne ne voulait poser publiquement. Ce livre, c'est un travail médical, argumenté, sourcé et vérifiable.
Vous reprenez donc la main sur la narration des faits. Ce livre a pourtant fait l'objet d'une censure judiciaire. Pouvez-vous expliquer ce point précis ?
Oui, le sous-titre initial, donc « Combien de morts ?», mettait directement en cause la responsabilité du laboratoire. Servier a donc attaqué en justice, estimant que je portais atteinte à son image. La justice a ordonné la suppression du sous-titre. Et pour moi, ça a été un choc. J'avais travaillé avec une rigueur scientifique extrême, et pourtant, j'étais pas protégé. J'ai compris ce jour-là que je serais très seul.
En novembre 2010, l'affaire devient publique. Les médias s'en emparent massivement.
C'est un moment qui est très particulier, puisque d'un côté, c'est un immense soulagement. Enfin, ce que je disais, c'était plus ignoré. Mais de l'autre, c'est quand même une exposition assez violente. Pour autant, je savais que c'était nécessaire et que quelque part, ça devait arriver un jour. Sans les réactions des médias, il n'y aurait jamais eu de prise de conscience politique.
Très bien. Et en parlant de réaction, l'affaire a surtout révélé un problème de régulation, non ? L'agence du médicament a failli et vous semblez dire qu'elle était sous influence. Mais est-ce si surprenant, en fond ? Le lien entre les industriels et les régulateurs n'est-il pas systématique ?
C'est pas une surprise, mais c'est un scandale. L'agence n'a pas seulement échoué, elle a été captée par l'industrie qui était censée réguler. Ce phénomène de capture par les lobbies, qui existe dans beaucoup de secteurs, est gravissime. Ce qui me choque, c'est que malgré des alertes internes, des rapports et même des rapports publics sur la dangerosité du Mediator, l'agence a continué à protéger Servier.
Mais comment empêcher ce genre de phénomène ? Les régulateurs doivent-ils être à l'abri de tout contact avec l'industrie ? C'est une question d'équilibre, non ? L'industrie pharmaceutique est un acteur majeur de l'innovation. Il faut parfois des liens, même directs, pour avancer.
Oui, les liens sont nécessaires pour comprendre les produits. Mais il y a une différence entre collaborer et être sous influence. Il faut des garde-fous, des contrôles plus stricts, des sanctions pour les conflits d'intérêts, des enquêtes publiques régulières. Ce qu'on a vu avec l'affaire du Mediator, c'est que l'agence était carrément dans la poche de Servier. Ce n'est plus un lien professionnel, c'est un enchevêtrement d'intérêts qui compromet toute la régulation.
Après la médiatisation, tout s'accélère. Mais quel est vraiment le rôle des médias dans cette affaire ? Diriez-vous aujourd'hui que les médias ont une force ou un obstacle dans votre combat ?
Les médias ont été d'une très grande force. Et le reste aujourd'hui, c'est un bras armé pour les lanceurs d'alerte. Ce qui ne m'a pas empêché de prendre des précautions. J'ai publié un livre avant de passer par les médias, et j'avais donc la maîtrise complète de l'information que j'ai rendue publique. C'est quelque chose à laquelle je tenais absolument. Même après, j'ai fait très attention vis-à-vis des médias, à contrôler les informations, notamment en étant d'une disponibilité pour eux. Pendant les mois qui ont suivi le début du scandale du Mediator, j'ai relu avant leur publication 90% des papiers qui sont parus dans la presse, avec une relecture technique pour qu'il n'y ait pas d'erreur.
Et oui, les journalistes pourraient commettre des erreurs qui pourraient mettre à mal cette alerte. Mais pour finir, parlons du film « La fille de Brest », sorti en 2016 et réalisé par Émilie Berco, qui est inspiré de votre parcours. Ce film a lui aussi contribué à faire connaître cette affaire aux yeux du grand public. Qu'en pensez-vous ?
Si un film permet de montrer la réalité du crime sanitaire, alors il est utile. Ce film, il est réaliste, palpitant et très porteur. C'est une autre façon de témoigner qui est majeure pour contrer le déni de trop de médecins et du laboratoire. Le film montre la souffrance des victimes, l'horreur du crime, et même une scène d'autopsie qui est très importante. Il montre aussi combien les autorités de santé ont failli à leur mission. Je suis d'ailleurs très sollicité par les étudiants en médecine pour des projections débat. Je fais parfois 1000 km en voiture, mais j'y vais. Et on débat des heures avec passion.
Très bien, merci beaucoup Irène Frachon.
Merci à vous.
Merci beaucoup Irène Frachon pour cette interview.
Merci à vous.